Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie.
L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture.
C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles.
L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement.
Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie.
Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute!
Bonjour Yves, bienvenue sur le podcast.
Bonjour.
Est-ce que, en guise d'introduction, vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est votre histoire et puis un petit peu l'histoire du GI2E par la même occasion?
Donc moi, je suis agriculteur double actif, voilà, et je suis passionné depuis mon jeune âge par l'agriculture. Sauf que quand j'étais jeune, pour mes grands-parents et indirectement mes parents, le métier d'agriculteur, c'était le dernier des métiers. Voilà. Je suis venu à commencer avec quelques brebis, et puis de fil en aiguille, j'ai construit ma petite exploitation, tout en gardant un emploi qui me permettait de faire bouillir la marmite. Voilà. Par rapport à ça, donc, je me suis investi de plus en plus dans le monde agricole. Et donc, ça fait une dizaine d'années, on avait un groupe qu'on se retrouvait et on échangeait sur par rapport à nos problématiques. Voilà. Et donc, le GI2E est né de ça, d'un groupement d'agriculteurs, où on était dans la réflexion. Alors, au départ, c'était une animation basique par rapport au système prairial, aux prairies, voilà. Et donc, sur notre territoire, on serait tout de suite aperçu que on avait un problème à l'époque, c'était la haie, voilà, parce qu'on savait pas comment aborder la haie. Donc, il y avait l'aspect, j'allais dire judiciaire, c'est pas ça, mais il y avait l'aspect réglementaire, voilà. On n'osait pas faire, donc voilà. Donc au départ, donc c'était en 2015. Donc la problématique, c'était comment intervenir sur les haies en respectant la législation et la partie environnementale, parce que tout est lié. Donc là est venue notre réflexion, notre première réflexion, c'est-à-dire notre thème, hein, je veux dire, qui est toujours encore notre colonne vertébrale du GI2E, c'est entretenir et pérenniser la haie par l'exploitation. Donc au départ, quand on avait des travaux à faire sur les haies, donc on avait trouvé la solution, c'est que on mettait tous les acteurs au pied de la haie, donc on référençait nos chantiers, et puis on prenait une journée, puis on allait sur le terrain, et puis on mettait tous les acteurs au pied de la haie. Donc quand je dis tous les acteurs, donc ça commençait par la partie environnementale, donc la LPO, le Conservatoire des Espaces Naturels, voilà, la partie administrative, donc c'est la DDT, et la partie judiciaire, donc à l'époque c'était l'ONCSF, maintenant l'OFB, quoi. Et on s'est aperçu qu'on pouvait faire des travaux au-delà de ce qu'on espérait, donc ça d'une part, et puis on a commencé, avec tous les acteurs, on a commencé à comprendre le fonctionnement d'une haie et ce qu'elle pouvait apporter. Donc en fait, on est passé en l'espace de 2 ans, entre 2015 et 2017, où la haie était une problématique, pour en finir, elle devenait un allié au niveau de l'élevage, quoi. Et donc, on a continué à travailler sur cette thématique-là. Donc, c'est là où on est venu à organiser des formations, toujours autour de la haie, donc les arbres fourragés, voilà. Et donc après, on a repassé encore une étape, donc ça par rapport au plan de relance, à replanter des haies.
On va revenir après aux différentes étapes du développement du GI2E, mais avant ça, j'avais vraiment envie de comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas le GI2E, quel était l'intérêt de se retrouver et de se structurer dans une structure de ce type, et un petit peu comment ça fonctionne le GI2E, quoi, pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc, GI2E, c'est un groupement d'agriculteurs, uniquement. Et nous, c'était de répondre à nos problématiques. Donc, on est dans le concret. Et on n'est pas là pour faire de l'animation et, j'allais dire, brûler du temps ou indirectement brûler de l'argent, quoi. Voilà. Donc, on va directement répondre à nos besoins.
Et juste sur les origines de ce collectif, vous disiez qu'il y avait un groupement d'agriculteurs. Donc, c'était un groupement technique, on va dire. C'était juste des gens du même territoire. Vous vous connaissiez entre éleveurs et vous retrouviez de manière informelle pour échanger. C'était quoi un petit peu le début de cette dynamique-là?
Au départ, on ne se connaissait pas. Donc, en fait, le départ du départ, en fait, c'était des animations de la chambre d'agriculture, voilà, qui avait des animations, qui avait des budgets pour animer sur des thématiques, quoi. C'était aussi simple que ça, quoi. Donc, au fil des réunions, je veux dire, c'était très intéressant, mais au fil des réunions, c'était déconnecté de la réalité. En fait, c'est ça, de déconnecter de la réalité du terrain. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. On a déjà, donc on est très surchargé en travail, en termes de temps. Donc, on a déjà la possibilité d'être dans la réflexion et de sortir la tête du guidon, hein, pour reprendre une expression. Mais on n'a pas de temps à perdre, quoi. Voilà. On a trouvé après la manière concrète de répondre à nos besoins. Et donc après, il y a eu une lassitude ou une certaine mollesse de la part des gens qui nous ont démarré, qui nous ont accompagnés. Enfin voilà, on n'était pas sur la. Donc on avait besoin d'avoir des réponses et d'avoir des solutions. Donc après, on n'est pas là pour dire un problème, une solution, quoi. De comprendre les choses, quoi. On avait besoin de comprendre les choses, on ne cherchait pas une solution. On avait besoin d'avoir la réflexion pour arriver de notre problème à une solution. Donc après, une solution, on fait un essai, on valide ou on valide pas, quoi. Je veux dire, ça marche ou ça marche pas, mais on y revient, quoi. Voilà. Et on avait un besoin d'avancer, et puis on s'est retrouvé avec des gens de divers horizons, quoi. Et puis voilà, quoi. Ça a germé comme ça, et puis le cercle a grandi, je dirais. Au départ, on était, donc on repose sur le premier cercle, c'est cinq ou dix personnes, quoi. Voilà, c'est cinq personnes le premier cercle. Puis après, ben ça s'est agrandi, quoi. Donc il y a des gens qui sont venus vers nous après par la suite par intérêt, voilà. D'autres par curiosité.
Mais donc du coup concrètement. Quelles sont les activités principales et comment elles ont un petit peu évolué pour arriver jusqu'à ici?
Alors l'activité principale, donc c'est tout ce qui tourne notre colonne vertébrale, c'est la haie, d'accord? Et on décline, voilà. Donc c'est comment entretenir une haie. Après, avec les produits la masse récupérée, qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Donc après, on est passé aux haies fourragères, donc on revient sur l'élevage, on est replacé dans la plantation de haies, voilà. Donc ça, on continue là-dessus. Ensuite, deuxième activité, donc c'est le PAEC. Le PAEC, plan d'accompagnement, environnemental et climatique. Donc c'est les mesures agro-environnementales du deuxième pilier. Donc là, on est reparti pour 2023, pour aller jusqu'en 2027. Donc 5 ans. Donc là, on a un budget donc à répartir sur nos exploitations et sur notre territoire à travers 4 groupes de mesures. Voilà. Mesure système herbagère. Donc ça, c'est pour défendre tous les élevages laitiers qui sont en production lait, enfin qui travaillent avec de l'herbe. Des mesures unitaires. retard de fauche, protection des espèces, c'est ce groupe-là, donc ça c'est tout ce qui est en zone humide. Mesures unitaires, ouverture de milieu, donc ça c'est tout ce qu'on a sur les pelouses sèches Natura 2000. Voilà. Et puis mesures IEAE, donc en gros c'est l'entretien des éléments, donc les éléments, entretien de la haie, entretien des arbres isolés, entretien des mares, entretien des forêts, des fossés, pardon. Donc tout ça c'est des mesures unitaires, voilà. Donc ça c'est un énorme travail puisque bon il y a des diagnostics d'entrée, des diagnostics de sortie et chaque mesure il y a un plan de gestion, voilà. Et donc là maintenant on est parti dans une phase où on travaille sur la vie du sol. Donc la vie du sol, donc c'est de quantifier de quantifier les choses, tout simplement parce que on paille pour la plupart du groupe, on paille avec des plaquettes forestières. Donc voilà, donc on va aller, c'est ce qu'on voit dans les vidéos, donc on va les remettre au sol, comment ça se comporte, quoi. Donc ben il se trouve que là on a commencé une formation on a commencé là récemment, la semaine dernière, une formation avec Vers de Terre Production et Conrad Schreiber. Ben voilà, quoi, je veux dire, il y a pas photo, quoi. Donc là, on va travailler, on est parti sur un travail de plusieurs années, on ne peut pas tout faire en une seule fois, quoi. Donc on va laver du sol, les assolements, bien comprendre le fonctionnement du sol, quoi. Et donc, ben, donc ça, c'était acquis pour beaucoup. Ça remet quand même en cause beaucoup de choses qui ont été enseignées au niveau agronomique. Donc après, moi qui suis pas de formation agricole et voilà, qui suis venu par l'extérieur, je comprends les choses, mais je veux dire, pour certaines personnes, ben voilà, c'est presque un changement de religion quand même. Hein.
Ouais. Mais du coup, on reviendra un petit peu au côté plaquette par la suite, mais je voulais qu'on comprenne bien. Donc du coup, on a bien compris que le cœur, c'était la haie. Mais aujourd'hui, alors, ça ressemble à quoi? Comment vous avez réussi à développer une manière que la haie devienne votre allié au lieu que ce soit une contrainte? Et donc, du coup, concrètement, quels sont les travaux d'entretien aujourd'hui et comment ça s'organise pour les membres du GI2E?
La haie, c'est un atout pour nos territoires parce que il y a une partie de notre territoire, quand on commence à être sur les pelouses sèches, sur les plateaux calcaires ou quand on va sur les zones de montagne, donc on est extrêmement boisé. Donc après, ben c'est déjà dans un premier temps des constatations. Enfin voilà, vous lâchez des animaux au printemps, la première chose qu'elles vont faire, par exemple les brebis, elles vont aller manger les bourgeons, manger les feuilles, quoi. Je veux dire, même si vous avez de l'herbe, de la belle herbe, voilà. Donc c'est forcément qu'il y a quelque chose. Dans les parcs au mois de juillet, c'est extrêmement sec, hein, c'est quasiment à la terre, hein, c'est brûlé maintenant. Les brebis sont bien, vous amenez du foin, elles en mangent pas, elles dépérissent pas. Donc voilà, même pour des genisses. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Elles trouvent à manger quelque part ailleurs. Elles se nourrissent autrement. Donc ça, voilà, c'est ça. Après, quand il fait maintenant, c'est pas rare d'avoir des températures qui dépassent les 35 degrés. Vous allez vous mettre dans un bosquet ou dans une haie, ben il fait tout de suite 7-8 degrés de moins, quoi. Hein. Donc, ben ma foi, c'est le bien-être, quoi. Donc forcément, ça apporte quelque chose. Donc c'est tout ça qui, je dirais, des constatations qu'il faut quand même pouvoir mettre en équation, quoi. Je veux dire, il va bien falloir qu'on explique. Donc et donc nous, on le constate. Donc maintenant, eh ben on le fait expliquer, voilà. Donc c'est à chaque fois qu'on trouve des intervenants. Il y a du monde hein, qui travaille sur la haie, des choses comme ça. Donc ça permet aussi de croiser les choses, quoi. Hein.
Et après, je voulais dire aussi au niveau très concret des travaux saison après saison. Aujourd'hui, le GU2E, qu'est-ce qu'il va faire? Il travaille avec une CUMA, c'est-à-dire il va organiser aussi une partie des travaux d'entretien.
C'est le but de la dernière de nos vidéos. Je vous ai dit au départ, c'est qu'on répertorie nos enfin, chaque agriculteur annonce les travaux qu'il veut faire sur ses haies. Ensuite, on va sur le terrain, on regarde ce qu'il est possible de faire, comment faut le faire. Quels moyens, tronçonneuse, lamier, on parle pas de l'épareuse parce que c'est pas top, donc tronçonneuse, lamier ou vraiment pelle avec sécateur quoi. Voilà. Donc là on est vraiment sur notre thème, entretenir la haie et la pérenniser par l'exploitation. Donc de toute façon, un arbre quand il est mûr, il faut le couper. Je veux dire, faut peut-être en laisser un de temps en temps parce que vous avez tous les auxiliaires qui vont aller dedans, mais je veux dire, faut le quand il arrive à maturité, donc il faut le couper de façon à ce qu'il y ait un jeune qui repousse, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça vit une haie, c'est du vivant. Donc ça a besoin d'être entretenu et ça a besoin d'être régénéré. Donc on répertorie nos chantiers, on va voir, on regarde ce qu'on peut faire dessus. Donc après, on fait intervenir. Donc on groupe nos chantiers, quand on fait revenir bien souvent c'est un entrepreneur ou c'est un agriculteur qui est équipé d'une pelle avec un sécateur, donc il intervient, voilà, parce que ça c'est très important aussi, c'est que la personne qui intervient, il faut qu'elle soit sensibilisée, informée, parce que c'est lui qui appuie, c'est lui qui coupe, donc une fois que c'est coupé, c'est foutu, quoi. Donc ça c'est aussi important. Donc ça dans un premier temps. Donc après, je dirais l'exploitation, ça va mettre en tas le bois. Donc il y a du bois qui peut servir pour du chauffage, et puis d'autres c'est pour broyer. Donc maintenant là, quand on a commencé nous il y a en 2015, donc on avait un entrepreneur qui faisait les travaux et qui récupérait le bois et qui nous payait le bois 5 € de la tonne. Donc nous ça nous coûtait rien. Donc voilà, donc ça c'est en 2015. Après il y a eu une période où les cours du pétrole ayant chuté, ceci, cela, donc ça marchait plus quoi. C'est là qu'on a pris le relais nous, de façon à utiliser nos tas. Je veux dire, on va quand même pas couper du bois pour le laisser pourrir. Donc c'est là qu'on a récupéré nos tas pour en faire du paillage. Donc ça, c'est venu chez nous parce qu'on a rencontré, donc on en parlait comme ça, oui, le paillage avec des plaquettes, machin, ok, on en parlait, mais voilà, on n'était encore pas au fait de ça, quoi. Et donc on a échangé avec des gens du Morvan, donc le SRPM, la station pluridisciplinaire des Metz. On était chez eux et puis il y avait voilà des agriculteurs qui témoignaient, puis eux ils paillaient, donc chez eux dans le Morvan. Ça se faisait depuis une vingtaine d'années. Donc ils ont développé un système où ils paillaient, enfin un système bois, plaquettes, CUMA, et puis ils allaient même fournir les particuliers qui avaient des chaudières à plaquettes. Donc nous on en est encore pas là pour plein de choses, hein. Enfin voilà. Donc quand on a vu ça, donc nous on a fait la même chose. Et on a fait la même chose, on est venu à pailler avec nos plaquettes parce qu'on avait des tas de bois qui étaient en attente de la personne qui nous avait fait les travaux puis qui nous les prenait pas. Donc quelque part, en termes d'image, c'est pas top parce que vous avez des promeneurs, ben voilà, vous avez coupé du bois, puis ça fait 2 ans que c'est au bord du chemin, puis ça pourrit, puis ceci, puis cela, quoi. Voilà. Donc on a récupéré, donc il y a quelques années, on a eu une sécheresse où la paille, l'envolée des prix de la paille, ça devenait horriblement cher. Et puis moi, j'ai un collègue qui a beaucoup d'UGB. Il me dit, écoute, moi, la paille, je vais la garder pour mes animaux pour leur donner à manger. Et puis, on va racheter nos tas de plaquettes de bois et puis on va pailler avec. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc après, il a fallu trouver quelqu'un pour broyer les plaquettes. Donc c'est des gens issus du monde forestier, voilà, c'est pas de milieu agricole, donc c'est pas facile de travailler avec eux, un coup je viens, un coup je viens pas, c'est tel jour, c'est pas tel jour, enfin bon, ça devient compliqué, quoi. Et donc, là, on a travaillé, dernièrement, on a eu une action avec la CUMA, de Bourgogne-Franche-Comté, une étude, parce que l'idée, c'est, ben maintenant qu'on commence à être pas mal à travailler là-dessus, avoir besoin de plaquettes. Est-ce qu'on pourrait pas acheter du matériel en Puma? Voilà, donc le matériel pour broyer, si on veut du matériel qui tient la route, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, rien que pour le broyeur, plus le tracteur, pareil, on va rajouter plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc voilà, donc c'est vraiment une étude à part entière. Et toujours pareil, dans nos échanges, dans nos invitations, au mois de septembre l'année dernière, on était invité par une Cuma de Houdou qui faisait une petite journée de démonstration. Et puis en discutant avec la grille, hein, donc il y avait beaucoup, on devait être trois agriculteurs, le gars de la Cuma, moi et puis mon collègue, quoi. Hein, autrement, les 30 autres personnes, c'était tous des, je dirais, des animateurs Natura 2000. Et donc, en discutant avec le gars, je dis, mais ton broyeur, là, tu... Ah ben non, tu me dis, on fait peut-être 150 heures par an, quoi. Hein. Donc, du coup, ben eux, ils veulent faire tourner leur broyeur, ce qui est tout à fait normal pour l'amortir. Et donc, ils sont venus nous faire une démonstration, donc en Haute-Saône, là, au mois de mai, là, pas au mois de mai, au mois de septembre 2022. Donc, on a fait une journée de restitution sur les haies. Et donc, là, c'était basé sur la Cuma. Donc, ça, c'est la dernière vidéo, normalement, qui doit être en ligne sur notre site, où ils sont descendus depuis Pontarlier, donc limite la Suisse, pour venir à Melun, donc Melun en Haute-Saône, quand même, limite Haute-Marne. Donc entre les deux, il y a pas loin de 200 km. Donc le gars, il est descendu avec le broyeur, le tracteur, et puis il a fait une démonstration, quoi. Et de là, ben on est reparti, on a été broyé un petit peu dans les Vosges chaunoises. Et donc le projet est en train de se finaliser dans le sens où on a une Cuma en Haute-Saône, une Cuma de compostage. Qui est sur tout le territoire de la Haute-Saône, et donc la Cuma de compostage donc va adhérer à la Cuma du Houdou, et comme ça eux ils vont pouvoir venir travailler chez nous, quoi. Voilà, donc ça point réglé, voilà. Donc voilà, donc ce coup-ci on passe à autre chose, voilà. concernant les plaquettes, donc on a la haie, on entretient la haie, on garde ça sur nos pour du paillage. Donc après, celui qui veut en faire du chauffage, il en fait du chauffage. Celui qui veut, il y a quelques agriculteurs, notamment chez nous, où ils ont une chaufferie à plaquettes. Voilà, il y en a d'autres qui ont des séchoirs avec plaquettes. Donc voilà, c'est utilisé. Et donc maintenant, on remet ça au sol. Donc maintenant, faut qu'on travaille sur ça, quoi. Je veux dire, en termes organiques, qu'est-ce qu'on ramène? Et donc là, on continue la boucle, quoi. Je veux dire, à chaque fois, on tire une ficelle et puis on avance, quoi. Hein.
Je serais vraiment intéressé de comprendre justement quel résultat vous avez eu avec la plaquette. Et vous, en tant qu'éleveur, est-ce que vous en êtes satisfait comme paillage ou non?
En tant qu'éleveur, super. Donc après, il faut être convaincu. Donc je reviens toujours là-dessus. Donc on a une vidéo qui date un peu, mais qui est uniquement sur le paillage. Voilà. Donc super en termes de coût par rapport à de la paille, en termes de santé animale, je veux dire on a des litières moins chaudes. Alors qui visuellement premier abord ne sont pas propres, on a l'impression, mais les bêtes elles sont secs. Et puis elles ont pas de, par exemple des genisses ou des torillons n'ont pas de, on le poil bien propre, quoi. Je veux dire, c'est pas des tas de merde. Vous allez dans certaines stabulations où c'est vraiment limite le paillage. Les vaches, elles ont un manteau en boue, quoi. Je veux dire boue sèche. Donc là, c'est pas le cas. Voilà. Donc après, en termes de main d'œuvre, ben c'est que vous faites un complément une fois par semaine, hein. On peut le faire à la pailleuse, voilà. Des surfaces qui sont faciles à nettoyer, qui sont pas glissantes. Moi j'ai un copain qui a des torillons, il me dit, moi à chaque fois que je nettoyais mes torillons puis que je les repaillais, ma hantise c'est d'en trouver un qui était cadré au milieu, quoi. Je veux dire, ça glisse, fait le grand écart, et puis vous l'emmenez à l'abattoir, quoi. Puis vous avez tout gagné, vous avez rien gagné sur le lot, quoi, quelque part. Dit avec les plaquettes, on n'a pas ce problème là, quoi. Voilà. Et puis il y a l'effet drainant. Moi je vois, j'ai des moutons, donc avant j'étais directement sur sol battu, donc j'avais pas de souci avec mes litières. Donc après j'ai fait un ciment Donc forcément, ben ça commençait dès que ça commençait au bout de 3 semaines, 4 semaines, ça commençait à chauffer, ça sentait l'ammoniaque et puis j'avais des mammites. Là maintenant, je mets 10 cm de plaquettes au fond et puis après je paille avec mes fonds de crèche et puis ça se passe super bien quoi. Je vide 2 fois par an. Enfin, quand je dis 2 fois par an, dans l'hiver quoi. Hein, je veux dire. Elles sont 6 mois en bergerie, donc je peux vider tous les trois mois. Là, j'ai vidé au mois de mi-décembre. Là, je pourrais presque vider, mais je veux dire, bon, il fait froid en ce moment, mais il n'y a pas d'ammoniaque, pas de fermentation, puis j'ai plus de mamie. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on se retrouve avec des litières plus fraîches, quoi. Voilà.
Et il n'y a pas besoin de mélanger avec de la paille, alors vous arrivez à faire juste litière et avec un petit peu les refus de foin, quoi.
Oui, bah pour les brebis, oui. Après, quand j'ai des agneaux, je paille, quoi. Je veux dire, je paille un peu plus, quoi. De toute façon, ils ont de la paille, les agneaux, ils ont de la paille à volonté, quoi. Voilà. Donc forcément, ils arrivent à tirer dans les râteliers, ça tire par terre, voilà. Mais autrement, non. Non, non. Voilà. Et j'ai quelque chose de... J'ai quelque chose de sec.
Et vous disiez que du coup qu'au niveau du prix par rapport à la paille, c'était intéressant. Est-ce que vous avez un peu un ordre d'idée à combien ça vous revient la tonne de paillage plaquette?
Celui qui a la paille, il n'a pas intérêt à aller acheter des plaquettes, d'accord. Donc par contre, nous la paille, il y a pas de prix quoi. Je veux dire. Ça se vend sur champ à l'hectare, voilà. Et puis quand vous achetez à la tonne, ben suivant le type de paille, ben ça peut aller jusqu'à, je dirais entre 90 et 120 euros la tonne, quoi. Voilà. Donc la plaquette quand vous avez le bois, ça vous revient à 40 euros la tonne, en sachant que une tonne c'est 3 mètres cubes. Et donc après, il y a des bois qui vont mieux que d'autres. Bon, les résineux, voilà, mais bon, il y a du terpène dedans, mais moi c'est pas gênant. Et donc les bois blancs, c'est l'aulne, enfin ce qu'on appelle les trembles, l'aulne, les vernes, quoi. C'est cette famille de bois. Ça pousse le long des petits ruisseaux, donc c'est extrêmement poussant, mais donc en termes de volume et du fait de la fibre, c'est pas des bois qui sont durs, donc ça fait éponge, quoi.
Et au niveau des résineux, ensuite, puisque vous êtes en train de travailler sur la restitution au sol, est-ce que ça peut poser un problème en termes d'acidification par rapport au compost que vous créez ou pas du tout?
Non, donc là on a été rassuré là-dessus. Donc maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de travailler sur les sols. Là, on commence un cycle, on va travailler sur plusieurs années. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il va y avoir des analyses de terre de fait, tout ça. Donc, mais non, super, super engrais. Voilà.
Et au niveau de la taille des plaquettes, qu'est-ce qu'il faut? Enfin, c'est quoi la taille qui sort pour que ça corresponde bien en paillage?
La plaquette de 40. Faut pas trop gros, puis pas trop fin.
Ok.
Voilà. Donc forcément, quand on dit de la plaquette de 40, il y a du petit. Vous allez passer des branches ou des choses comme ça, ça va sortir petit. Mais pas de souci.
Et est-ce qu'aujourd'hui, comment vous gérez votre ressource alors? Parce que vous avez vos haies. Est-ce que vous sélectionnez certaines zones, peut-être des ripisylves avec des bois plus qui ont poussé plus vite, comme vous disiez, pour plutôt la plaquette? Est-ce qu'en fait tout passe en plaquette? Enfin, comment ça se passe aujourd'hui en fonction de ce que vous gérez et l'utilisation qu'il y a derrière?
Là, ces 2 années-ci, donc on a Noé, je dirais, c'est notre capital. Donc on n'aime pas trop décapitaliser. Donc là, on se retrouve sur le territoire avec pas mal de sapins qui sont malades. Ça c'est le top. Voilà. Donc on arrive. Là, ça fait 2 ans. On paille uniquement avec ça. Ensuite, vous avez les scieries, hein, qui ont des redoses. Là, ça fait deux ans, on a une scierie. Donc là, voilà, c'est c'est ponctuel, mais ça nous a tenu pendant 2 ans. Une scierie qui arrête et puis qui libère son chantier, donc qui se retrouve avec des tas de vieilles de la planche, hein, carrément, mais qui sont invendables. En passant dans le broyeur, c'est super. On a un produit qui est sec, bien. Donc après, on a tout, quoi. Je veux dire. Donc voilà. Donc après, c'est l'opportunité, quoi. Donc après, nous sur les plateaux, on se retrouve avec du bois, du charme, de l'érable, des bois qui sont très peu poussants et très très peu denses, quoi. Donc ces bois-là, ça va pas pour le paillage. Et ça n'absorbe pas. Voilà. Donc on va plutôt chercher du bois. Donc c'est un échange entre agriculteurs. Je veux dire, quand c'est comme ça, on se groupe, quoi. On est sur un tas, on se groupe. Bon, moi, ça fait 2 ans qu'on se sert à la scierie, voilà. Donc l'année dernière, c'était aussi un agriculteur qui avait un gros tas de résineux. Bon, on était tapé chez lui. Cette année, c'est moi qui ai récupéré des résineux. Ben, quand le broyeur va venir, tout le monde va venir avec ses bennes chez nous, et puis on va y aller comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est un échange entre nous.
Comment vous arrivez à valoriser du coup les charmes et plutôt les érables, du coup, il y a un moyen d'en faire quelque chose d'intéressant pour vous?
Ben, les charmes et les érables, c'est du bois de chauffage, quoi. Hein. Je veux dire, après, voilà, c'est réservé pour le chauffage. Et puis là, maintenant, il y a une demande, il y a un marché éventuellement pour des chaufferies collectives, quoi. Parce que bon, ben, ma foi, voilà, c'est dans le cycle énergétique, quoi.
Je voulais juste, avant qu'on passe à plutôt peut-être la plantation et d'autres aspects, juste pour finir sur l'aspect paillage, comment ça se passe le compostage par la suite? Parce qu'on imagine que le compostage de plaquettes pourrait être plus long que de la paille. Est-ce qu'il y a besoin d'un compostage spécifique, de le retourner davantage?
Donc ça, c'est des idées. Donc nous, on a un agriculteur, donc quand j'ai commencé à y en parler, qu'il faisait du paillage, donc lui, il se trouvait qu'il avait des poulaillers et qu'il avait une chaufferie à plaquettes. Donc quand j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher, quand il a vidé son poulailler, il était maître de godet il a rempli le poulailler de plaquettes et puis il a fait son essai comme ça. Et donc au printemps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça sur ses blés. Voilà. Donc ça s'est bien épandu, sauf que 2 jours après, il n'y a plus. Il va sur son champ, un champ de plaquettes. Donc les plaquettes ont été lavées. Et il se dit, merde, comment que ça va se passer? Et donc à la boisson, quand il est revenu, il n'a pas retrouvé de plaquettes. Donc en fait, ça mycorhize très vite. Voilà. Mais c'est pas la meilleure des solutions. La meilleure des solutions, donc compostage, on oublie. Le compostage, on oublie. Donc on a cru jusqu'à présent que le compostage était la solution. Donc c'est tout dépend ce qu'on recherche, quoi. Donc le fait de composter, donc vous allez émietter, vous allez faire monter en température votre tas, hein, qui va monter jusqu'à 75 degrés en fonction du fumier que vous avez. Mais vous allez perdre tout ce qui peut être transformé par le sol. Donc la solution vers laquelle on va se diriger, c'est-à-dire que quand on va sortir de nos stabulations, on va mettre notre fumier en tas, tout dépend où on va le sortir. On va le mettre en tas, on va le tasser, voilà, de façon à ce qu'il soit le moins oxygéné possible, parce que c'est l'oxygène qui amène la réaction, je dirais, les premières réactions chimiques. Et on va épandre ça à l'automne, de façon à ce que ça se décompose l'hiver et puis que ça minéralise que ça aille dans le sol, que ça minéralise et puis qu'après ça puisse se libérer pour la plante. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire et c'est le but de nos formations qui vont suivre, quoi. Donc on va voir si ça marche. Voilà. Donc on nous a vendu ça. Maintenant on va essayer. Donc après on vous dira si ça marche ou pas.
Et ça vous arrive jamais de ramasser du coup de la plaquette en faisant les foins par exemple, ou c'est pas quelque chose qui se passe, quoi. Ça se décompose à temps en hiver.
Oui, oui. Puis encore mieux ramasser un bout de plaquette que ramasser un caillou, hein, chez nous, hein. Je vous le dis.
Hein. C'est sûr.
Non, mais de toute façon, on n'y voit rien. On n'y voit rien du tout. Donc, c'est aussi bien sur les prairies que dans les champs. Hein. Je veux dire, dans les champs, vous travaillez un coup de sol, voilà quoi.
Du coup, j'avais une question. On a commencé l'interview et vous nous parliez justement du rôle de l'arbre dans l'alimentation des ruminants. Et je me demande, est-ce que vous, justement, avec ce contexte de sécheresse à répétition, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu un petit peu observer ou quantifier, de voir l'utilisation de cette ressource par vos animaux et potentiellement si ça a permis d'économiser de la distribution de fourrage l'été, quoi.
Oui, ben ça vous pouvez le faire, mais enfin, bon, les sécheresses, elles viennent de plus en plus tôt. Hein. Je veux dire, avant, voilà, c'était fin juillet pour aller jusqu'au 15 août. Après, on avait les orages, donc ça revenait. Tandis que maintenant, faut tenir, je dirais, du 15 juin jusqu'au 15 septembre. Donc là, c'est plus la même chose. Donc les troupeaux ont évolué aussi. Hein, je veux dire, les gars qu'ont 150, 200 UGB, voire même plus, vous pouvez pas faire ça. Voilà. Par contre, celui qui est en extensif, qui a un petit troupeau extensif sur des parcelles, vous pouvez le faire. Ça peut vous faire un complément, ça peut vous faire un joint, quoi. Mais après, voilà, ça peut être là, mais c'est pas forcément. Ça pourrait être une solution, mais je dirais à petite échelle. Voilà, à petite échelle. Moi, je me souviens, la sécheresse de 76, j'étais gamin. Alors, ça va vous faire rigoler, ce que je vais vous dire. Pour aller donner à manger aux lapins, on allait couper le long de la haie chez mes grands-parents, les branches, et puis qu'on allait donner à manger aux lapins. Voilà. C'est ce qui se fait aussi dans le centre de la France. Sur les plateaux des mille vaches, et voilà, les gars qui avaient des troupeaux de moutons, ils allaient avec la tronçonneuse et puis ils coupaient un arbre et puis ça donne à manger au troupeau, quoi. Voilà. Effectivement, mais maintenant les dimensions, alors c'est paradoxal ce que je vais vous dire, il y a de moins en moins d'élevages, effectivement, mais les troupeaux sont de plus en plus gros, donc ça marche pas, quoi. Voilà. Et donc la sécheresse en 2003. Ma foi, il y a des gens qui ont lâché qui n'avaient plus rien à manger, qui ont lâché les bêtes dans les forêts, quoi, voilà. Donc, après, chacun, c'est le libre-service, quoi, effectivement. La forêt, c'est le refuge, mais c'est, je dirais, en dernier recours, quoi.
Parce que d'avoir une gestion de la haie avec pour objectif de vraiment donner à manger aux animaux, c'est vrai que ça pose plein de questions pratiques, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec les branches une fois qu'on a coupé? Comment est-ce qu'on amène ça de manière efficace à des animaux? Enfin, il me semble qu'il y a encore beaucoup de défis techniques.
Bah après, il faut pas des grosses branches. Donc on a quelqu'un là, notamment sur notre. Je suis en train de penser à Adrien Mesnan, qui a un petit troupeau de vaches allaitantes. Ben voilà, lui, il a la combine. Hein. Il coupe ses rejets, ses branches, il charge ça au godet dans un gros râtelier, donc comme ça les vaches elles mangent les feuilles, le bout des branches, et puis à la fin il récupère ses branches et puis il en fait sa charbonnette pour se chauffer. Mais il peut le faire parce qu'il a un petit troupeau, il a le temps, je veux dire, voilà. Mais ça peut se concevoir aussi comme ça, quoi. Donc après, il se retrouve le long de rivière dans des terrains où c'est poussant, enfin voilà, dans un contexte qui permet de le faire. Mais vous pouvez pas faire ça sur des pelouses sèches comme on a, je veux dire. Vous avez un malheureux noisetier, au 15 juillet, il a plus de feuilles. Donc de toute façon, il n'y a plus rien à manger, quoi. Les feuilles sont tombées. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. Donc après voilà, donc moi je me suis amusé comme ça. Je vais voir mes bêtes, je prends mon sécateur, je les appelle, elles me suivent, je coupe 2-3 branches, donc elles mangent les feuilles, quoi. Voilà. Donc bon, joint l'utile à l'agréable, on va dire comme ça, mais c'est pas des solutions qui sont viables. Voilà. Ça peut être une solution, mais petit troupeau, toute proportion gardée, mais c'est pas des solutions. C'est pas comme ça qu'on peut nourrir un gros troupeau, quoi. Voilà.
La structuration en GI2E, c'est compliqué administrativement. Enfin, comment ça s'est fait ensuite de se dire on a envie de trouver cette approche assez pratique pour ensuite passer au niveau plutôt administratif du GI2E et les intérêts que ça peut représenter?
Donc c'est compliqué. Oui, puis non. Disons que dans l'agriculture, rien n'est simple. Donc après, être compliqué, pour moi, c'est une somme de choses simples. Donc au départ, non. Je veux dire, au départ, vous avez bien compris, on compte pas notre temps, on est bénévole, voilà. C'est très intéressant, c'est motivant, et puis indirectement, ça nous permet de résoudre nos problèmes sur les exploitations. Donc voilà, le bénéfice est là. Donc après, effectivement, ça commence à se compliquer pour nous dès cette année, puisque maintenant on est une personne embauchée à mi-temps. Donc il faut pouvoir le payer, et puis il faut pouvoir boucler à la fin du mois, de façon à pouvoir régler le salaire, tout ce qui est induit, c'est-à-dire toutes les taxes et les, enfin voilà. Donc après, on passe forcément dans une autre dimension, mais on a mis de 2015 pour aller jusqu'à 2023, quoi. Voilà, pour évoluer à ce niveau-là. Donc après, il faut aller chercher les financements, les animations, et puis apporter quelque chose aussi, c'est ça. Donc on est aussi dans quelque part dans pas dans l'innovation, mais on a toujours de nouveautés, voilà.
Ouais. Et parce qu'en fait, par rapport à une CUMA, moi je connais un peu mieux le modèle des CUMA, où je vois d'où viennent les ressources dans une CUMA, mais dans un GI2E, les ressources, par exemple, pour salarier quelqu'un, c'est plutôt du financement public pour de l'animation, quoi. C'est plutôt ça le modèle.
Non, parce que on... Oui, mais non. Oui, mais non, parce que chaque agriculteur paye une cotisation pour adhérer au GI2E. Donc la cotisation, elle est pas énorme, hein. C'est 1 euro par hectare par an de la SAU par exploitation, voilà. Donc après, on a quelques financements par rapport à des animations au niveau de la DRAF, essentiellement de la région, et puis des fonds européens, les fameux FEDER, quoi, pour des actions bien précises, quoi. Voilà. Et puis nous, on a une façon de communiquer, c'est-à-dire que on va pas faire du réchauffé. C'est pas notre but. Donc notre façon de communiquer, c'est de faire partager notre expérience. C'est pour ça que donc on fait systématiquement, à chaque fois qu'on a quelque chose de marquant, on fait des vidéos. Et donc vous retrouvez sur nos vidéos. Vous les reprenez dans l'ordre, vous voyez l'évolution du GI2E, quoi. Voilà. Et donc là, on continue, quoi. Et maintenant, on est passé à une autre étape. Donc là, ce coup-ci, depuis cette année, mais déjà un peu auparavant, c'est-à-dire que on va chercher des MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques. Et donc, on est reconnu par rapport à la DRAF. Opérateur, quoi. Et donc, quelque part, c'est une fierté pour nous, parce qu'on est les seuls agriculteurs au niveau de la grande région. Quand je dis la grande région, c'est Bourgogne-Franche-Comté. On est les seuls agriculteurs à avoir déposé un PAEC. Voilà. Et donc, on sort un peu du cadre et des sentiers battus, associations, et ceci, et cela, machin, voilà. Donc, on a le mérite d'essayer de se faire vivre, quoi. Alors c'est pas toujours facile, forcément c'est compliqué, parce que sans le vouloir, on bouscule un peu les lignes, quoi, forcément, hein. Quand je dis on bouscule un peu les lignes, c'est que ben les choses étaient bien établies, quoi, hein. Mais voilà, donc on a été quand même, je reviens un petit peu en arrière, quand même les précurseurs au niveau de notre département et de notre région, mais voilà, à parler de la haie en 2015, quoi.
C'est sûr. Ben merci en tout cas d'avoir clarifié un petit peu les origines du projet. Je demande ça parce que c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui le collectif, c'est quand même important, la démarche collective est importante, et c'est pas toujours évident d'enclencher ces dynamiques dans les territoires, donc c'est toujours intéressant de voir quels sont les ingrédients qui avaient besoin d'être réunis pour que ça fonctionne. Maintenant, j'aimerais bien comprendre, qu'on ait une image claire du GI2E, c'est-à-dire aujourd'hui, combien d'exploitations et quelle superficie à peu près ça recouvre pour qu'on ait un peu une idée de l'échelle, et puis un peu quelles sont les activités principales du GI2E et son fonctionnement pour qu'on comprenne bien comment il fonctionne au quotidien.
Alors, concrètement, je n'ai pas tous les éléments, parce que là, on est en train de travailler donc avec notre salarié, on est en train de travailler entre autres sur la ferme GI2E. Donc, c'est 50 exploitations, voilà. Je dirais, c'est entre les structures de GAEC associées, tout ça, je dirais, c'est 50 exploitations, c'est 70 chefs d'exploitation, voilà. Quelques millions de litres de lait, voilà, quelques milliers de vaches allaitantes et plusieurs milliers d'ovins, quoi. Pour une superficie, c'est 8000 hectares, voilà, de SAU. Mais j'aurai des éléments plus différents, enfin plus précis d'ici 2 mois, quoi. Voilà. Donc voilà en gros, quoi. Donc après, le GI2E, il est actif sur 90 communes au niveau de la Haute-Saône. Donc 90 communes, ça représente un quart du territoire de la Haute-Saône, quoi.
Et donc du coup aussi, pour avoir une idée de votre territoire, donc vous êtes un territoire principalement d'élevage. Enfin, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre territoire comme ça, juste pour qu'on comprenne un petit peu le contexte pédoclimatique dans lequel vous évoluez?
Alors, la Haute-Saône, donc on est sur un territoire, notre territoire, c'est au centre de la Haute-Saône, on est essentiellement en polyculture et polyculture élevage. Donc la Haute-Saône, c'est un département assez particulier, puisque il y a une partie qui touche la Côte d'Or, donc je dirais à l'ouest du département. Donc c'est les plaines céréalières, et puis on va jusque sur les Vosges chaunoises, donc où c'est la montagne, voilà, où on est à 1000 mètres, 1200 mètres, quoi. Donc après, il y a une partie Haute-Saône, donc la Saône, hein, qui est une rivière importante, donc il y a toute une partie prairie, avec des limons, on a des plateaux calcaires, donc pelouse sèche, voilà. Et on a une partie aussi qui est bordée par l'Ognon, donc c'est une rivière qui démarre des Vosges et puis qui va jeter dans la Saône, quoi. Donc le nom Prairie d'Or, donc prairie en référence à notre territoire, et d'Or, Durgeon, Ognon, Romaine. Donc c'est trois rivières qui délimitent notre territoire, trois rivières majeures du département. Donc qui jette dans la Saône, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc nous, on est en plein centre de la polyculture élevage. Donc on a une pression, je dirais, il y a une pression céréalière. Hein, on laboure, enfin, on arrête le lait, on arrête l'élevage, on laboure. Voilà. On a aussi au niveau du département une concentration de méthanisation. Donc ça, c'est par rapport à la région. Donc moi, je l'explique comme ça. Je veux dire, dans le Haut-Doubs, ils sont en zone comptée. Donc voilà, ils ont du lait qui est super bien payé. Donc avec des cahiers des charges très particuliers. Donc ils n'ont pas besoin de méthanisation. Après, ce qui touche la Côte d'Or, ben, ils sont en système céréalier. Donc ils n'ont pas la matière première de la méthanisation. Donc méthanisation, donc c'est on traite les effluents d'élevage. Et puis, donc au départ, c'est ça, quoi. Hein. Et puis après, on l'agrémente avec un petit peu de sous-produit, sauf que le sous-produit, et c'est là où le blâme, c'est que le sous-produit, bien souvent, ça vient de cultures qui pourraient être destinées pour les animaux. Je pense au maïs, notamment. Ben voilà, c'est plus rentable de le mettre dans un méthaniseur que de le donner à manger à des vaches, quoi. Voilà. Ou à des ruminants. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour nous. Donc il y a encore quelques agriculteurs qui croient en leur métier, quoi. Mais je dirais par rapport à ça, ça c'est Ce que je vais vous dire maintenant, donc c'est au fil des rencontres qu'on fait, au fil des formations. Pour résumer, pas d'élevage, pas de vie. Voilà.
Du coup, il y avait une dernière thématique que je voulais qu'on aborde ensemble. C'est de se dire, vous avez clairement un capital que vous gérez, la haie, mais vous avez aussi eu le besoin de se dire, on va planter des haies en plus. Donc déjà, qu'est-ce que c'est, enfin pourquoi cette démarche de rajouter de la haie, et un peu aussi comprendre comment ça s'est décliné entre formation, plantation et le rôle du GI2E dans tout ça.
Ben, comment ça s'est décliné? Je veux dire, c'est dans la suite de notre démarche, quoi. Voilà, je veux dire, on avait parlé des fourragères, voilà. Donc maintenant, on passe à autre chose concernant la haie. Donc ça s'est trouvé avec le plan de relance pour les haies. Et ça c'est toujours pareil. Quand on a fait la formation sur les fourragères, on est arrivé à un constat aussi simple que ça. Donc ça, vous retrouvez sur nos vidéos, c'est toujours pareil. Un jeune agriculteur, il dit, ben moi, dès qu'il fait chaud, donc lui, il a un pâturage tournant dynamique derrière son bâtiment, l'allée qui va bien bétonner, des parcelles, les vaches, un gros troupeau, les vaches passent pas plus d'une journée par jour sur chaque parcelle, enfin bon, bien découpé, bien organisé. Moi, il dit, moi, dès qu'il fait chaud, les vaches, elles rentrent dans le bâtiment. Je veux qu'elles restent dehors. Voilà, mais il n'y a pas d'ombre. Donc elles sont mieux dans le bâtiment que dehors. C'est quand même pas normal, ça. Déjà dans un premier temps. Donc voilà, donc il a replanté, donc lui, c'est des arbres fruitiers qu'il a replanté, plus des haies. Voilà, donc la réflexion, elle est venue comme ça. Il y a un autre agriculteur, et ben, c'est pareil, je veux dire, leur membrement, on a arraché des haies, des ceci, des cela, pour avoir un peu l'ombre, pour remodeler le paysage, parce qu'une haie, effectivement, elle apporte de l'ombre, mais elle peut être drainante, elle peut séparer, border un fossé, séparer un ruisseau, enfin voilà, donc elle a plein, entre guillemets, d'utilité. Donc voilà, la réflexion elle est venue comme ça, et puis chacun a construit son projet. Donc on a trouvé quelqu'un, donc Antoine Marin là, notamment, pour pas le citer, qu'on retrouve sur les vidéos. Lui c'est son truc, ça fait 10 ans, il accompagne des collectivités, des agriculteurs pour replanter des haies, quoi. Voilà. Donc vous allez sur Clermont-Ferrand, donc dans la plaine de la Limagne, vous avez des terrains qui sont en légère pente. Ma foi, c'est labouré à l'extrême, hein, c'est les terrains les plus productifs de France. Seulement à chaque fois qu'il y a un orage, vous avez la terre qui est sur la route, quoi. Hein. Donc c'est pas le but de la manœuvre, quoi. Hein. Et voilà. Donc la haie, elle peut aider aussi à ça. En plus de toute la partie environnementale, quoi.
Pour vous, enfin, quelles sont un peu les prochaines étapes du GI2E et aussi un petit peu les défis auxquels vous faites face, quoi, ou enfin un peu se projeter dans l'avant, quoi.
Ben, les prochains défis du GI2E, donc c'est déjà d'asseoir et de valider notre embauche, voilà. Donc donc ça va nous permettre de nous stabiliser. Ça va, en tant qu'agri, ça va nous libérer du temps pour aller explorer d'autres choses, quoi. Voilà. Je dirais le risque, ça serait vraiment d'aller à la facilité, en fait, de s'endormir. Il faut toujours qu'on ait de nouvelles idées de façon à ce qu'on soit dans la dynamique du groupe, quoi. Et donc pour ça, donc si eh bien il y a des jeunes qui nous rejoignent, ils y viennent déjà dans un premier temps par intérêt, mais ils n'ont pas encore compris tout ce que un GI2E, un travail collectif peut amener. Voilà. Nous on s'en a aperçu parce que dans le premier noyau, on a tous plus de 50 ans, donc on a toujours été tout seul par rapport à nos problèmes, et on a quand même la force d'un groupe, et puis dans trois têtes, il y en a forcément plus que dans une, voilà. Donc c'est ça aussi, et puis en fait, une chose, ce n'est pas qu'un brainstorming, hein. Je veux dire, une chose balancée comme ça peut faire réagir d'autres, et puis on peut rebondir, donc c'est comme ça aussi, donc il faut surtout pas qu'on perde ça, quoi. Et donc, j'allais dire, on allait, le risque, c'est de s'embourgeoiser. C'est pas le mot qui convient. On peut pas dire qu'il faut, enfin voilà, faut qu'on se sente concerné et que ça nous apporte quelque chose, quoi. Voilà. Faut pas qu'on réagisse comme le petit employé qui va pointer et puis faire ses heures, quoi. Je veux dire, faut que ça serve à quelque chose. Voilà.
Bon, ben écoutez, Yves, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et d'avoir partagé votre expérience avec nos auditeurs. Et à bientôt.
Cet épisode de Cambium est déjà terminé. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforesterie.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt !